Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre paru en latin en 1187, Le Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton est un traité fondateur de physique mathématique. Cette édition française reprend la traduction historique menée par Émilie du Châtelet. Accompagnée de matériaux éditoriaux qui ont contribué à diffuser l'e-newtonianisme en France, notamment une préface de Voltaire. Le livre ne se présente ni comme un manuel moderne, ni comme une vulgarisation. Il construit, par définition, lois, propositions et démonstrations géométriques, une théorie générale du mouvement, applicable aussi bien aux corps terrestres qu'aux astres. Newton y formule les trois lois du mouvement et établit la gravitation universelle comme principe capable de relier la chute des corps, le mouvement de la Lune et les trajectoires planétaires. Son objectif est méthodologique, autant que scientifique, montrer comment des principes quantitatifs, confrontés aux phénomènes observés, permettent de déduire des conséquences précises. La lecture demande une attention soutenue, mais elle donne accès à un texte qui a profondément redéfini les rapports entre mathématiques, expérience et études de la nature. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les trois lois du mouvement comme grammaire de la dynamique. Les Principia posent une architecture conceptuelle qui permet de traiter le mouvement comme un problème rigoureux plutôt que comme une simple description qualitative. La première loi affirme la persistance de l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme en absence de force extérieure. Elle remplace les conceptions selon lesquelles tout mouvement exigerait un entretien permanent. La deuxième loi relie la variation du mouvement à la force appliquée et fournit le cadre à partir duquel les effets dynamiques deviennent calculables. La troisième loi établit la réciprocité des actions entre corps. Une interaction ne concerne jamais un objet isolé, mais une paire de corps agissant mutuellement. Ces principes ne sont pas exposés comme des formules scolaires détachées de leur emploi. Newton les insère dans un dispositif de définition, de lemme et de corollaire destiné à analyser les forces centrales, les chocs et les mouvements curvilignes. Leur portée tient à cette généralité, les mêmes règles servent à étudier un projectile, un pendule ou un corps céleste. La traduction de Duchâtelet rend ce socle accessible au lectorat francophone tout en conservant la rigueur argumentative du traité. Il faut toutefois lire ces lois dans leur contexte historique, leur formulation originelle utilise la notion de quantité de mouvement et ne se réduit pas exactement aux notations vectorielles modernes. Deuxièmement, la gravitation universelle relie la Terre, la Lune et les planètes. Le geste décisif des Principia consiste à étendre une même loi de gravitation à des phénomènes jusque-là séparés par la tradition. La chute des corps près de la Terre, le mouvement orbital de la Lune et les révolutions des planètes relèvent d'une attraction dirigée vers les masses et décroissant avec le carré de la distance. Newton ne se contente donc pas de proposer une hypothèse cosmologique. Il déduit les conséquences mathématiques de cette loi et les confronte aux régularités astronomiques établies notamment par Kepler. Les trajectoires elliptiques, les variations de vitesse sur une orbite et les rapports entre périodes de révolution et distances trouvent ainsi une explication unifiée. Cette unification transforme la signification même du ciel. Les astres ne suivent plus des règles d'une nature distincte de celles des corps terrestres. Ils obéissent au même principe dynamique. Newton reconnaît néanmoins que les systèmes réels comportent des interactions multiples, capables de produire des perturbations et de rendre les calculs difficiles. La force du livre ne vient donc pas de la promesse irréaliste de résoudre instantanément tout problème astronomique, mais de la mise en place d'un cadre pouvant être perfectionné. C'est ce cadre qui soutiendra ensuite la mécanique céleste et une grande partie des sciences physiques classiques. Troisièmement, une démonstration géométrique à la place du calcul moderne. Pour un lecteur contemporain, la difficulté la plus visible des Principia tient à sa forme. Newton dispose d'idées associées au calcul infinitésimal, mais il présente majoritairement ses raisonnements dans le langage de la géométrie classique. Les démonstrations reposent sur des figures, des rapports de grandeur, des limites et des constructions qui exigent de suivre précisément chaque étape. Ce choix correspond aux standards de preuve de son époque et donne au traité une apparence très différente de celle des manuels de mécanique actuels. Il ne signifie pas que les résultats seraient seulement visuels ou approximatifs. Newton utilise les procédures géométriques pour exprimer des relations de variation et pour établir avec rigueur les propriétés de courbe et de force. La traduction française historique possède ici un intérêt particulier. Duchâtelet ne fut pas seulement traductrice, son travail éditorial a contribué à rendre les résultats de Newton plus lisibles dans le contexte intellectuel français, où les méthodes analytiques prenaient une importance croissante. Lire cette édition permet donc de saisir un passage entre deux cultures mathématiques, celle de la synthèse géométrique et celle de l'analyse. La contrepartie est une exigence réelle. Il est préférable de distinguer les énoncés physiques majeurs des détails techniques avant de tenter une lecture exhaustive de preuves. Quatrièmement, trois livres pour passer des principes abstraits aux phénomènes observables. La composition des Principia suit un mouvement méthodique. Le premier livre développe les lois du mouvement dans un cadre idéal, sans résistance des milieux, afin de déterminer les propriétés des trajectoires soumises à des forces centrales. Cette abstraction est indispensable, elle isole les relations fondamentales entre force, vitesse, courbure et orbite. Le deuxième livre introduit ensuite la résistance des fluides et examine les mouvements dans des milieux non vides. Il montre que les effets du frottement compliquent fortement la dynamique et fournit aussi des arguments contre certaines explications fondées sur des tourbillons matériels. Le troisième livre applique les résultats à la structure du monde mouvement des planètes et de leurs satellites, figures de la Terre, marées et comètes. Cette progression importe autant que les conclusions célèbres. Newton ne déduit pas directement une vision du cosmos depuis une spéculation générale. Il construit des résultats dans des situations définies avant de les mobiliser dans interprétation de données astronomiques. Le livre distingue ainsi les principes de calcul, les phénomènes mesurés et les règles de raisonnement en philosophie naturelle. Cette discipline argumentative a imposé un modèle durable, une théorie physique gagne en force lorsqu'elle articule clairement ses hypothèses, ses conséquences mathématiques et ses tests empiriques. En dernier lieu, la traduction de Duchâtelet comme acte scientifique et culturel, cette édition ne donne pas seulement accès aux textes de Newton en français, elle renvoie aussi au rôle décisif de la marquise Duchâtelet dans la réception continentale de sa physique. Réalisée à partir de la troisième édition latine, la traduction fut publiée après sa mort en 1759 et fut précédée par Voltaire. Elle s'inscrit dans un moment où les idées newtoniennes entraient en débat avec les traditions cartésiennes encore influentes en France. Les commentaires et éclaircissements associés à cette entreprise importent parce que les Principia étaient difficiles à lire, même pour des savants expérimentés. Ils aident à mettre en relation le style géométrique de Newton avec les méthodes analytiques qui se développaient au XVIIIe siècle. Duchâtelet avait par ailleurs défendu, dans ses propres travaux, une compréhension plus précise de la force vive, notion liée à la dépendance de énergie au carré de la vitesse. Il convient toutefois de ne pas confondre ses apports avec les propositions exactes de Newton. La valeur de cette édition réside précisément dans le dialogue qu'elle organise entre le texte original et les débats scientifiques ultérieurs. Pour les lecteurs francophones, elle constitue donc un document majeur de transmission du savoir. Elle fait voir qu'une théorie scientifique ne se diffuse pas uniquement par ses résultats, mais aussi par la traduction, explication et réélaboration critique des méthodes. En conclusion, les Principia conviennent avant tout aux étudiants avancés en physique, mathématiques ou histoire des sciences, ainsi qu'aux lecteurs désireux de rencontrer une œuvre fondatrice dans sa forme argumentative plutôt que par un résumé contemporain. Une formation technique facilite la lecture des démonstrations, mais elle ne constitue pas une condition absolue pour en tirer profit. Un lecteur non spécialiste peut se concentrer sur les définitions, les lois du mouvement, les passages consacrés aux phénomènes célestes et les commentaires de cette édition, en utilisant au besoin un guide moderne. Le bénéfice intellectuel principal est de comprendre comment une théorie générale se construit par abstraction contrôlée, raisonnement mathématique et confrontation avec les observations disponibles. Le livre apprend aussi à distinguer la fécondité durable du cadre newtonien de ses limites connues, notamment aux vitesses relativistes et aux échelles atomiques, par rapport au manuel moderne, plus direct et plus efficace pour apprendre à résoudre des exercices. Cet ouvrage est moins accessible mais bien plus révélateur de la naissance de la mécanique théorique. Par rapport au simple récit historique, il offre le texte même où se forme cette révolution conceptuelle. La présence de la traduction de Duchâtelet et de son contexte éditorial lui donne une singularité supplémentaire. Le lecteur découvre à la fois Newton et une étape essentielle de la circulation critique de ses idées dans les Lumières françaises. Si vous souhaitez soutenir Isaac Newton, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.